VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 19h30 ans universel du 24 juillet 2018 sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia à la présentation, voici les titres. En République démocratique du Congo, les autorités annoncent la fin de l'épidémie d'Ebola qui a fait 33 morts dans la province de l'Équateur. Par ailleurs, les ONG des droits de l'homme s'inquiètent de la hausse des cas de violation des droits humains en RDC à l'approche des élections.
Si on muselle la presse, il n'y a pas de démocratie. Si des journalistes vont avoir peur d'aborder des questions de société, puisqu'ils peuvent être menacés, ça signifie que nous sommes en train de tuer l'état de droit sur lequel nous sommes assis.
Reportage à suivre dans la partie magazine. Verdict dans le procès d'activistes au Niger. La Cour prononce des peines d'emprisonnement avec sursis contre les principaux acteurs de la société civile. Puis le président américain Donald Trump salue le démantèlement d'un site de test nucléaire en Corée du Nord. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. L'ex-chef de guerre congolais Jean-Pierre Bemba confirme depuis Bruxelles qu'il compte rentrer le 1er août à Kinshasa en vue de l'élection présidentielle de décembre sans esprit de vengeance. Il a aussi indiqué qu'il militerait pour une candidature unique de l'opposition. Jean-Pierre Bemba a été acquitté et remis en liberté provisoire sur décision du jury d'appel de la Cour pénale internationale. C'était le mois dernier à La Haye. Il avait été condamné en 2016 à 18 ans de prison pour des exactions commises par sa milice en Centrafrique au début des années 2000. En République démocratique du Congo, toujours fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province de l'Équateur. La nouvelle a été annoncée à Kinshasa par le docteur Oli Ilunga, le ministre congolais de la Santé. 33 personnes sont mortes en 2 mois et demi avant que l'épidémie ne soit maîtrisée. On fait le point avec Thierry Kamboni de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Depuis le 6 juin 2018, aucun nouveau cas confirmé de maladie à virus Ebola n'a été enregistré dans la province de l'Équateur. Le dernier cas confirmé est sorti guéri du centre de traitement d'Ebola de Bikoro le 12 juin dernier, a indiqué le ministre de la Santé de la RDC, le docteur Oli Ilunga, avant de conclure. Après une période d'observation de 42 jours sans enregistrement d'un nouveau cas confirmé et conformément à la réglementation sanitaire internationale, je déclare à partir de ce 24 juillet 2018 la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province de l'Équateur en RDC. Au total, selon les statistiques présentées par le gouvernement, le virus Ebola aura fait 33 morts à l'Équateur sur les 54 cas confirmés. Les 21 survivants ont, eux, créé un regroupement appelé Association nationale des vainqueurs d'Ebola. Déclarée le 8 mai dernier, la 9e épidémie d'Ebola en RDC n'aura donc duré que 2 mois et 16 jours. Kinshasa, Thierry Kamboundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
En Guinée, le Premier ministre a menacé de sévir contre ceux qui prennent, selon lui, en otage le pays. La grève générale à l'appel des syndicats contre la hausse de 25% du prix du carburant a été bien suivie ce mardi. Au nom de quoi des partis politiques, des sociétés civiles, des syndicats peuvent-ils prendre en otage tout un pays? Lundi grève, mardi ville morte, mercredi marche. Montrez-moi un pays où ça marche comme ça. Ça n'existe pas, a déclaré Ibrahim Kassouri Fofana sur la télévision publique. Au Niger, condamnation à 3 mois de prison avec sursis des acteurs de la société civile arrêtés dans le cadre des manifestations de protestation contre la loi des finances 2018. On fait le point avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Sur les 3 chefs d'accusation pour lesquels ils étaient poursuivis, le juge a retenu un seul, provocation d'attroupement non armé. Et c'est pour cela qu'il les a condamnés à une peine d'emprisonnement de 3 mois assortie de sursis, ce qui signifie qu'ils vont sortir de prison ayant déjà passé 4 mois de détention. D'où la joie et la satisfaction de leurs camarades et parents. Barira Chebou, une des épouses de Ali Idrissa.
C'est la On remercie le bon Dieu, on remercie le juge, les avocats et tout le monde. Et la lutte continue. Hein.
La décision de condamnation de 3 mois d'emprisonnement avec sursis concerne donc les principaux leaders de la société civile. 2 de leurs co-détenus, eux, ont été relaxés faute de preuves. 10 d'autres ont été condamnés à 1 an d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis. Ce pourquoi le conseil d'avocats compte interjeter appel. Il faut rappeler qu'un autre groupe d'activistes de la société civile, détenu en avril dernier dans le même cadre des manifestations anti-loi des finances 2018, attend toujours que le juge fixe une date pour leur procès. Abdullah Razak Idrissa, Niamey, VOA, Afrique.
L'opposition ivoirienne se prononce sur la crise au sein de la coalition au pouvoir. Selon Pascal Afinguesson, le dirigeant du Front populaire ivoirien, la crise au RHDP est le témoignage de la faillite d'une politique et le signe de la fin d'un régime. Un militaire camerounais mis aux arrêts après le viol d'une jeune fille à Bamenda, c'est en zone anglophone, c'est ce qu'a annoncé le ministre camerounais de la Défense dans un communiqué. Le soldat a été interpellé par la gendarmerie nationale à Bamenda et traduit au tribunal militaire de Bamenda pour répondre de son acte sur le plan pénal, a mentionné Joseph Betty Assomo dans ce communiqué. Les Nations Unies dénoncent des intimidations et des menaces de violence et de harcèlement d'électeurs avant les scrutins présidentiels et législatifs du 30 juillet au Zimbabwe. Il s'agit des premières élections depuis la chute de Robert Mugabe en novembre.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump salue le début du démantèlement par la Corée du Nord des infrastructures sur sa principale base de lancement de satellites, considérée comme servant comme un site d'essai pour ses missiles balistiques intercontinentaux. De nouvelles images aujourd'hui montrent que la Corée du Nord a commencé le processus de démantèlement d'un site majeur de tir de missiles. Nous y sommes très sensibles, a déclaré Donald Trump, évoquant sa rencontre fantastique avec le leader nord-coréen Kim Jong-un à Singapour, c'était le mois dernier. L'armée israélienne a affirmé avoir abattu ce mardi à l'aide de missiles un avion de combat syrien qui avait pénétré son espace aérien. Les détails avec Nicolas Pinon.
Oui, c'est l'armée israélienne qui, dans un communiqué, explique que l'avion syrien de type Sukhoi a pénétré de 2 km dans l'espace aérien israélien. L'appareil a alors été intercepté par des missiles Patriot. L'armée utilise ce terme d'intercepté pour dire que la cible a été abattue. Israël est sur le qui-vive depuis le 19 juin, début de l'offensive lancée par le régime syrien et ses alliés pour reprendre les zones rebelles dans les provinces méridionales de Deraa et de Kouneitra qui bordent la partie du plateau du Golan occupée par Israël. Israël a annexé ces territoires de 1200 km² en 1981, une action jamais reconnue par la communauté internationale. L'armée israélienne affirme qu'elle continuera à opérer contre toute violation de l'accord de 1974, en référence à un texte sur la création d'une zone tampon démilitarisée entre les deux pays, un an après la guerre israélo-arabe de 1973. Israël et la Syrie n'ont jamais conclu de traité de paix. Tout en veillant à ne pas être aspiré dans le conflit en Syrie, Israël a frappé à plusieurs reprises dans ce pays depuis le début de la guerre civile en 2011.
La vague de chaleur humide qui s'est abattue sur le Japon a tué 80 personnes et conduit quelque 35 000 autres à l'hôpital en 3 semaines, selon les chiffres officiels. La majorité des décès concernent des personnes âgées, mais aussi des enfants. Un garçon de 6 ans a succombé à un coup de chaleur après des activités à l'extérieur de l'école. 6 villages submergés et 100 de personnes portées disparues au Laos à la suite de l'effondrement d'un barrage hydroélectrique en construction. Le point avec Lionel Gaïma.
Des vidéos diffusées mardi montraient les survivants réfugiés sur les toits de leurs maisons submergées. Les autorités ont dépêché des bateaux dans la zone pour les secourir. Des dizaines d'autres étaient entassés dans les barques. La tragédie a eu lieu lundi soir lorsque le barrage hydroélectrique en construction dans le sud-est du Laos s'est affaissé, libérant 5 milliards de mètres cubes d'eau. Au moins 6 000 personnes sont sans abri. Selon la télévision d'État laotienne, le premier ministre Thonglun Sisoulith et des membres de son gouvernement se sont rendus dans l'une des zones affectées pour superviser les secours. Le Laos a entrepris ces dernières années un ambitieux programme de construction de barrages dans le but de générer des revenus en exportant l'électricité vers les pays voisins. De nombreux groupes écologistes avaient exprimé leurs préoccupations, notamment concernant l'impact de ce projet sur le fleuve Mekong et les communautés riveraines.
Au Yémen, un attentat suicide a fait 2 morts et 6 blessés ce mardi à Aden, dans le sud du pays. Parmi les victimes, il y a un haut responsable des forces de sécurité loyales au gouvernement yéménite. La première ministre britannique Theresa May prend désormais la direction des négociations sur la sortie de l'Union européenne, jusqu'ici dévolue au ministre du Brexit. Dans une déclaration au Parlement, la dirigeante conservatrice a expliqué qu'il était essentiel que le gouvernement s'organise de la manière la plus efficace. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et c'est Eric Manirakizar qui nous présente la Minute Éco.
La Chine et l'Inde vont accorder au Rwanda 326 millions de dollars. Le gros de l'enveloppe viendra de New Delhi. Près de 200 millions de dollars serviront dans les infrastructures. La première moitié sera utilisée pour assurer l'irrigation de 3 zones distinctes du Rwanda. Et la seconde permettra l'installation de zones économiques spéciales pour attirer les entreprises au Rwanda. Pékin a accordé un prêt de 76 millions de dollars pour la construction de l'axe routier Huye-Kibeho et 50 millions de dollars pour la construction de la nouvelle route d'accès à l'aéroport d'Obuguesera. Ces accords ont été conclus en marge de la visite du président chinois Xi Jinping et du premier ministre indien Narendra Modi à Kigali. L'Afrique du Sud abrite à Johannesburg le sommet des BRICS qui comprend le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. De mercredi à vendredi, les dirigeants de ces pays émergents vont essayer de renforcer les opportunités d'affaires que cet espace leur offre. Le président turc Recep Tayyip Erdogan est également invité à ces assises. La prochaine foire commerciale intra-africaine permettrait à l'Égypte de signer des contrats d'investissement de 25 milliards de dollars. Prévue en décembre prochain au Caire, et verra la participation d'environ 50 pays africains, 1000 exposants et environ 70 000 visiteurs. La Banque africaine d'import-export veut lever les barrières du commerce intra-africain qui est d'environ 15% et de pallier l'insuffisance d'informations fiables sur les marchés africains.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Accusé de corruption, l'adjoint du sélectionneur du Nigeria se défend.
J'ai accepté les 750 dollars qui m'ont été remis par l'un des deux agents uniquement comme un cadeau et non comme une incitation à faire jouer les deux joueurs représentés par les agents, a déclaré Salisu Youssouf, adjoint de Gernot Rohr et entraîneur des Super Eagles locaux lors du CHAN 2018. La BBC a diffusé une vidéo montrant le technicien nigérien en train d'empocher de l'argent après une conversation avec des journalistes se faisant passer pour les agents de deux joueurs dont l'identité n'a pas été révélée. Ils lui ont aussi promis de lui verser 15% du montant d'un éventuel transfert dans la mesure où le CHAN leur servirait de tremplin vers un meilleur club.
Mohamed Salah, nommé dans la catégorie du meilleur joueur de l'année.
Et oui, au terme d'une saison 2017-2018 de feu avec Liverpool, 44 buts en 52 matchs, toutes compétitions confondues, l'ailier égyptien figure dans la liste des 10 nommés pour le titre de meilleur joueur FIFA de l'année. Déjà élu joueur de l'année en Premier League, le pharaon se retrouve aux côtés de superstars comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo et des champions du monde français Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Raphaël Varane. On y retrouve aussi Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Harry Kane et Luka Modric. Neymar est par contre absent de cette liste. Le lauréat sera désigné le 24 septembre prochain à Londres.
On connaît aussi les nominés dans la catégorie du meilleur entraîneur de l'année.
Tout à fait, Didier Deschamps, champion du monde avec les Bleus, Zinedine Zidane, vainqueur pour la 3e fois d'affilée de la Ligue des champions avec le Real Madrid, font partie des 10 nommés. Zidane avait remporté ce prix en 2017. Sont aussi en lice, entre autres, Massimiliano Allegri, champion d'Italie avec la Juventus Turin, le Russe Stanislav Cherchesov, quart de finaliste du Mondial, le Croate Zlatko Dalic, finaliste, Pep Guardiola, champion d'Angleterre avec Manchester City, Diego Simeone, lauréat de l'Europa League, l'Espagnol Ernesto Valverde, qui a gagné la Ligue avec le FC Barcelone. Cette liste sera réduite à 3 noms début septembre.
Les Clasico Real Barça, les 28 octobre et 3 mars prochains.
La Fédération espagnole de football a dévoilé le calendrier du championnat 2018-2019. Les deux géants, le Real Madrid et le FC Barcelone, vont s'affronter le 28 octobre au Camp Nou et le 3 mars au Santiago Bernabéu. Le Barça, dernier vainqueur de la Liga, recevra son grand rival lors de la 10e journée dans l'affiche entre clubs la plus regardée au monde. Le Real, triple champion d'Europe en titre, jouera le match retour à domicile pour la 26e journée du championnat qui se terminera le 19 mai.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia toujours en votre compagnie et on passe au dossier du jour. La montée des cas de violation des droits de l'homme en République démocratique du Congo à l'approche des élections du 23 décembre inquiète les défenseurs des droits humains. Selon un récent rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, entre janvier et juin 2018, ce bureau donc a documenté plus de 3310 cas de violation ou atteinte aux droits de l'homme en RDC. Reportage de Ernest Mouero dans le Sud Kivu.
Ces rapports révèlent des violations généralisées des droits civils et politiques, une augmentation de près de 500 cas des incidents des violations des droits de l'homme par rapport aux cas documentés de janvier à juin 2017, remarqué. Maître Justin Bahiroué, coordonnateur des SOS IJM et observateur permanent au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, déplore cette augmentation.
Tout ce qui est contenu dans ces rapports relève ou fait la photographie de la situation des droits humains dans notre pays. Nous décrions cet état de choses et on demande à notre gouvernement de faire en sorte qu'il puisse relever ces défis. Comme pays siégeant au Conseil des droits de l'homme, il est censé refléter les bons élèves.
Pour Maître Arnold Nyaluma, avocat à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et doyen de la faculté des droits à l'Université catholique de Bukavu, il est inacceptable que dans un état des droits, en 6 mois, 222 cas de menaces et violations des droits de l'homme soient documentés à l'encontre des 141 défenseurs des droits de l'homme et 39 journalistes selon ses rapports.
Cette période, nous allons vers la période électorale. Si on muselle la presse, il n'y a pas de démocratie. Si des journalistes vont avoir peur d'aborder des questions de société, puisqu'ils peuvent être menacés, ça signifie que nous sommes en train de tuer l'état de droit sur lequel nous sommes assis.
Le rapport révèle également 499 cas documentés des violations liées à la restriction de l'espace démocratique, alors qu'en 2015, il n'y en avait que 290. 120 cas de décès des personnes en détention, 779 violations dont les exécutions extrajudiciaires commis par les agents de la police et 245 victimes des violences sexuelles. Solange Loachiga du mouvement Rien sans les femmes réagit.
C'est un indice inquiétant et nous sommes en train de voir qu'il y a des signaux qui ne trompent pas. Nous voulons ainsi lancer un appel à la communauté internationale afin que la situation des violations des droits humains ne puisse pas se dégrader davantage au courant de cette période électorale qui s'annonce.
Alors que parmi les provinces affectées par des conflits figurent le Nord Kivu, l'Ituri, les Kasaï et le Sud Kivu, Maître Justin Bahiroué s'étonne que depuis juillet, le défenseur des droits de l'homme du Sud Kivu n'ait plus d'interlocuteur.
Nous avons tous été surpris de constater que le gouverneur de province a supprimé de manière expresse le ministère de la Justice et des droits humains. Ça s'appelle une régression en matière de mise en œuvre des droits humains. Nous sommes maintenant l'unique province qui n'a pas d'interlocuteur. C'est pas normal.
Selon ces rapports d'IBCNUDH, dans les provinces affectées par les conflits, 45% des violations sont commises par les groupes armés et 55% attribuables aux agents de l'État. Ernest Mouero Bukavu pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.4 à Bukavu.
Au Mali, le président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, Amadou Ba, a renvoyé hier toutes les questions concernant le fichier électoral à la DGE, la Direction générale des élections, la structure chargée de l'organisation matérielle du scrutin. Depuis le week-end, l'opposition parle de plus de 100 000 électeurs fictifs. Comment la société civile malienne voit cette crise? Pour une réponse, Bagassikoura a joint Kabel Boubou. Il est le président de la société civile de Bougouni, une petite ville à une soixantaine de kilomètres au sud de Bamako.
Bon, quand on a entendu le bruit, ça nous a inquiété, ça nous a effrayé, parce que il y a quelque chose que nous inquiétons. Ça, c'est les conflits post-électoraux. Ça, on en a vraiment, on s'inquiète beaucoup pour ça. Alors, si l'opposition crie qu'il y a un autre fichier autre que celui-là qui est à la disposition de l'administration, là, ça pose problème, ou bien?
Oui, ça, c'est juste. Mais finalement, qu'en est-il? Est-ce que vous avez essayé d'en savoir davantage?
Voilà, par endroit, on a demandé à nous informer davantage avant que même le gouvernement ne fasse une déclaration contraire sur les antennes de l'ORTM.
La radio nationale.
Alors, la télévision nationale et la radio. Voilà. Donc, moi, en tout cas, à mon niveau, j'ai demandé au niveau supérieur. Moi, je suis au niveau local, donc régional et national, on a essayé de comprendre réellement ce que l'opposition dit. Est-ce qu'ils en ont la confirmation? Bon, personne ne nous a dit qu'il a effectivement vu ces fichiers-là. Et par ailleurs, je crois que même s'il y avait une part de vérité dedans, il y a l'Organisation internationale de la francophonie qui s'est exprimé pour dire que le seul fichier disponible aujourd'hui, c'est le fichier qu'eux, ils ont eu à auditer. Et que c'est ce fichier-là qui est en ligne. Et là, ça nous a tranquillisés.
Et est-ce que l'opposition a finalement laissé tomber et est rassurée à son niveau aussi?
Je crois que les ardeurs se sont calmées quand ils ont rencontré le Premier ministre. Parce que par rapport à la situation, je crois que le Premier ministre a apporté des arguments valables. En tout cas, il y a 2 ou 3 jours, on n'en parle plus.
Alors, vous, au niveau de la société civile, est-ce que vous avez d'autres inquiétudes par rapport à ces élections?
Bon, l'inquiétude, nous ici, on a constaté que tout le matériel électoral est sur place, les documents électoraux sont à 80% sur place. Et maintenant, la formation des agents électoraux a commencé et la CENI a recruté des délégués. Vous savez que la CENI met un délégué par bureau de vote sur toute l'étendue du territoire. Et que ce recrutement aussi a été fait. Et maintenant, les partis politiques ont été autorisés, ceux de l'opposition et ceux de la majorité, à fournir des agents électoraux qui seront des assesseurs. Et les 2 autres assesseurs sont fournis par l'administration. Alors ça, c'est des situations qui vont dans le sens où, dans les conditions normales, tout le monde doit accepter les résultats des élections. Donc là, ça nous permet d'abord vraiment d'être serein et puis dire que tout doit se passer, en tout cas, normalement. Alors, mais c'est des élections, et les élections en Afrique, ça fait peur tant que alors les candidats de l'opposition, ou bien les vaincus, ne s'expriment pas pour apporter, en tout cas, l'accalmie nécessaire.
Voilà, donc c'était Kabel Bougouni de la société civile malienne, et on reste au Mali où l'insécurité rend difficile l'organisation de l'élection présidentielle dans certaines parties des plateaux d'Ogon. Le gouverneur de la région de Mopti a donné des assurances, mais selon notre correspondant, une visite sur place a permis de constater l'impossibilité de tenir la présidentielle du 29 juillet, car certains candidats ont été empêchés d'aller tenir des meetings dans les cercles de Koro et Bandiagara. De Koro, le reportage de Kassim Traoré, notre correspondant sur place.
La campagne électorale se poursuit dans les plateaux d'Ogon. Les convois de véhicules des candidats défilent à longueur de journée. Les géants maires de la commune de Sanga se contente de les observer. Il n'a plus le choix à cause de l'insécurité. Ali Igono Dolo ne peut pas conduire son candidat dans sa commune.
La situation qu'on vit ici, c'est venu d'un malentendu. Ou bien les porte-parole auprès du gouvernement, qui est parti auprès du gouvernement, pour demander de mettre ses chasseurs ensemble pour qu'ils puissent parler de paix et comment organiser, diriger les élections. Et c'est à ce temps qu'ils sont venus brûler les motos. Ils ont tenté de les désarmer, ça n'a pas marché, donc ils ont incendié les motos. Donc c'est cette crise qui fait qu'aujourd'hui, nous, on ne peut pas aller faire la campagne dans cette.
Est-il possible de tenir l'élection présidentielle dans les 21 communes du cercle de Bandiagara? Le préfet Sirima Kanouté répond.
Ah non, ça, dire ça, c'est être non réaliste. Nous avons pu donner les cartes sans problème parce que c'est les commissions et les membres des sous-commissions sont des ressortissants. Mais pour les élections, l'enjeu est grand. Il s'agit des agents électoraux que nous allons amener dans tous les villages et après les élections, et 11 ans après les élections, c'est au-delà de 18 heures, qu'on devrait réamener ces agents électoraux au niveau du chef-lieu d'arrondissement. Voyez, là,
il y a des risques.
L'association des chasseurs Dana Amasawu dans le cercle de Banyangara rassure Moïse Sagara, secrétaire général de Dana Amasawu.
Là, nous sommes là à sensibiliser les gens d'aller retirer les cartes d'électeurs, de ne pas avoir peur. S'il y a des problèmes, si nous ne sommes pas non loin de la zone, nous pouvons vite venir au secteur. C'est pour cela que nous sommes là à sécuriser. Actuellement, nous rencontrons beaucoup de difficultés. La situation est vraiment confuse. Et si nous sommes là à lutter contre le banditisme, il y a encore d'autres encore qui pénètrent en s'habillant en tenue d'onzo pour dire qu'ils sont d'onzo qui font vraiment de n'importe quoi. Donc on est contre ça aussi.
Les partis politiques qui ont de la chance sillonnent quelques communes à l'image de la CODEM à travers le député Boukari Sagara.
On est en train de dire à la population que s'ils ne votent pas, ce n'est pas bon parce que ce n'est pas à l'État qu'ils sont en train de faire, c'est à eux-mêmes parce qu'ils ont déjà un candidat, un fils du territoire qui a fait l'école ici, qui connaît leurs difficultés, qui peut, à notre avis, aller à l'apaisement, bon, à notre avis, finir avec le problème dans lequel où nous sommes. Donc, s'ils n'ont qu'à sortir massivement pour voter pour notre candidat qui est Fusena Miongindo.
Pour le gouverneur de la région de Mopti, des dispositions sont envisagées afin de sécuriser les scrutins. Général de brigade Sid Alassane Touré.
Amener les cartes est une chose, mais venir chercher les cartes aussi, ça en est nous. Donc non, les cartes sont dans toutes les communes disponibles pour la cité. Nous avons des forces à Kankabou, nous avons des forces à Dinangourou, nous avons des forces à Djungani, à Mondoro. Mais les trois premières localités, c'est des forces qui ont été installées il y a seulement 2 mois. Il y a des patrouilles qui se passent aujourd'hui dans toute cette région-là. Donc il n'y a pas de raison que les gens, comme je l'ai dit, il y a quelque chose aussi qu'il faut dire, monsieur le journaliste, il faut que les gens dominent leur peur.
Dans les falaises, à cause de la crise, plusieurs candidats ont été écondis dans le cercle de Koro et Bankas. Mais malgré les difficultés, certains ont pu franchir le Rubicon sous l'escorte de l'armée malienne. Koro, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Voilà, merci à Sim Sloumami et à Bill Barber. Merci d'avoir suivi cette édition. Au revoir.
Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Le 9 juillet, le président érythréen Isaias Afwerki et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed ont décidé de résoudre les différends entre leurs deux pays en signant un accord de paix qui mettra fin à 2 décennies d'hostilité. Pendant 5 ans après que l'Érythrée a obtenu par référendum son indépendance de l'Éthiopie, les deux pays ont eu des relations cordiales. Mais, en 1998, une dispute frontalière s'est muée en une vicieuse guerre qui a fait plus de 80 000 morts. Les hostilités ont cessé en l'an 2000, mais les deux pays ont maintenu un face-à-face militaire dans le territoire litigieux. En plus de mettre un terme aux hostilités de longue date, un accord de paix aurait d'importants bénéfices pour les deux nations. Un pays enclavé, l'Éthiopie pourrait accéder aux ports érythréens d'Assab et de Massawa sur la mer Rouge, sur l'une des voies maritimes les plus fréquentées de l'Asie à l'Europe en passant par le canal de Suez. Pour sa part, l'Érythrée aurait la possibilité d'améliorer son économie sévèrement mise à mal par la guerre avec l'Éthiopie et bloquée par l'impasse subséquente. C'est un pays isolé dont nombre des ressortissants ont émigré. Les États-Unis se félicitent de l'engagement du 9 juillet pour la paix et la sécurité entre l'État de l'Érythrée et la République fédérale démocratique d'Éthiopie qui met fin à 20 ans de conflit, a dit le secrétaire d'État Mike Pompeo dans une déclaration écrite. Nous félicitons le premier ministre Abiy d'Éthiopie et le président Isaias Afwerki d'Érythrée pour avoir courageusement mené leur peuple vers la paix, la prospérité et les réformes politiques. La normalisation des relations et l'adoption d'une déclaration conjointe de paix et d'amitié entre l'Érythrée et l'Éthiopie permettront à leur peuple de se concentrer sur leur aspiration à des liens politiques, économiques et sociaux plus étroits, a souligné le secrétaire d'État Pompeo. Les États-Unis sont prêts à soutenir ce processus et encouragent toutes les parties à continuer de travailler dans la transparence et la confiance dans les jours à venir. La paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée renforcera la stabilité, la sécurité et le développement dans la Corne de l'Afrique et de la mer Rouge.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.